Regardez. Imagine-t-on pas quelqu'un assis et rêvant? Ne sentons-nous pas ces rêveries suivant les couleurs du paysage? Nous ne sommes plus devant la nature, mais devant la rencontre de l'homme avec celle-ci.
CO2, mon amour.
Marquis, vous touchez juste. Mais pourquoi m'avoir demandé deux fauteuils alors qu'un seul suffisait?
C'est que je n'ai pas terminé ma démonstration. Ces deux fauteuils ne nous laissent-ils pas supposer deux personnes assises, silencieuses, côte à côte?
Avec Denis Chessoux.
L'âme unie devant le même paysage, liée par un lien aussi sacré que l'imperturbable sérénité de la nature.
Sur France Inter.
Sérénité de la nature dans Mademoiselle de Jonquière avec Édouard Baird. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine très très nature, CO2 mon amour, avec aujourd'hui Benjamin Orgeret à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Allez, avec un petit édito assez léger, parce qu'en fait, un copain cycliste anglais m'appelle cette semaine et me dit « Es-tu au courant que nous avons été et sommes encore en partie en rupture de nains de jardin ?» Alors là, je me suis dit « C'est du lourd ». Je lui avoue sans blesser que je ne suis pas au point sur l'ensemble de l'actualité mondiale. Ce que tu comprends, « Too much, c'est too much ». Nous, sujet fidèle de sa toujours gracieuse majesté, nous avons résisté aux Romains, au smog anglais, aux froggies, à la peste brune, au kilt du prince de Galles, au punk à chien, à Margaret Thatcher, à l'AstraZeneca, au variant brésilien. And so what? Unlucky we are. Une bloody hell de vieille galiote nippone géante, souviens-toi, a fait fausse route en travers du canal de Suez. Ah bah oui, on s'en souvient, on n'est jamais à l'abri d'un marin qui n'a pas le permis. Ce fut comme une arête de hareng fumé dans la glotte de Mr. Pickwick. On s'étrangle. L'Europe, la terre entière nous en veut. Et en plus, il y a rupture de nains de jardin. Denis, tu ne te rends pas compte? Alors effectivement, j'étais assez désarmé pour entamer une analyse psychopolitique pertinente et venir en aide à mon pote. Un vent de panique souffle sur la pelouse de mon père, qui est pourtant plus petite que celle de mon oncle. By Jove! Ah, chez nous, le nain de jardin n'est pas comme chez vous, de l'ornemental kitsch pour faire sourire l'entourage. Alors je sais bien que dans les années 90, vous avez eu un front de libération des nains de jardin, c'était du sérieux. Chez nous, c'est culturel. Ce sont les héritiers des gnomes de pierre qui hantaient les fastueux jardins de la Renaissance italienne. Et puis, dès 1797, Goethe écrivit Hermann et Dorothée où il évoquait un jardin magnifique que les passants admiraient pour ses nains colorés. Et chez nous, Sir Charles Isham, propriétaire terrien et jardinier anglais, installé à Longport Hall, en rapporta une vingtaine d'exemplaires de Suisse d'Allemagne au milieu du 19e siècle pour décorer son jardin. Alors, je me disais parfois qu'il y avait plus que 32 km de manche qui nous séparaient, même en ayant tous en tête le nain d'Amélie Poulain. Tu comprends? C'est comme un ami, un animal domestique. C'est l'âme qui vole sur les fleurs. Il y a une demande très forte de nains avec le confinement. Le nain, c'était parfois la seule personne à qui parler. Et mon John, je peux le garantir, à part une bière au sommet du Ventoux avant de redescendre, ne boit que de l'eau. Alors je lui ai dit, je suis avec toi. Comme quand je te tends un bidon alors que les tiens sont vides. Maudit Brexit, qui déjà vous met les barbus à bonnet rouge en céramique et la tulipe de Hollande au prix du caviar. Et puis les penchères en plastique qu'on prenait plaisir à renouveler tous les ans, viennent de Chine. Bah oui, exit notre indépendance aux nains de jardin. On a là aussi laissé partir notre industrie. Quick le canal et les magasins sont vides. Un carré vert anglais tiré à quatre épingles rempli d'oiseaux. Ah oui, parce que les Anglais sont quand même meilleurs protecteurs que nous. Oui, bien sûr, mais sans ces lutins. Bon, alors, je vois bien que vous n'êtes pas forcément très compatissant, hein, donc pauvre Old England, pub à moitié fermé, jardinier semi-dépressif, la Guinness est amère cette année. Courage, amis anglais. Au menu, alors, des embruns, une mer méditerranée et une jeune femme qui milite pour la défense des droits de la nature.
Bah, moi, elle repose justement sur la génération de mon fils, hein, plutôt, parce que nous, on va donner tout ce qu'on peut. Et chaque génération doit faire, en fait, sa part. On se veut. De père en fille et en fils, on va essayer de se transmettre cette volonté à la fois de faire appliquer les lois justes et de combattre les lois injustes.
Elle vient de sortir « Devenir gardien de la nature » chez Tana Éditions. Elle s'appelle Marine Calmet, elle a 30 ans. C'est notre guide sur ces terres et mères d'enfance. C'est Muriel Pérez, notre programmatrice cette semaine, qui a choisi Noël Gallagher, qui faisait voler haut ses oiseaux. Respirez, nous partons dans le Var.
Nous sommes sur la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer. C'est à quelques minutes de bateau de Toulon. Et c'est la presqu'île où j'ai grandi l'été, où j'ai appris à nager, appris aussi le nom des plantes, des poissons avec mon papa. Et aujourd'hui, on est là justement pour montrer un petit peu la richesse de ce territoire, et puis pour montrer aussi les dangers qui guettent, parce que c'est une presqu'île qui est menacée par la surbétonisation, la construction d'immeubles à tout va, et en même temps un patrimoine magnifique de littoral qui demande qu'à être préservé en fait de l'impact des humains sur ses côtes.
Une jeune femme, Marine Calmet, 30 ans, Dominique, c'est son père, océanographe de formation et puis spécialiste de sécurité nucléaire, donc scientifique rigoureux, à la tête de l'association de protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier. Avec 210 adhérents actifs dans une commune de 6000 habitants, et ben c'est quand même un très très beau chiffre. Bon, évidemment, quand on a un maire qui aime construire, ça clash. Un terrain de 2000 m2, non loin de la mer, c'est vendu il n'y a pas si longtemps, un peu plus de 3,5 millions. Voilà, alors on regarde le plan local d'urbanisme comme le lait sur le feu. Trois générations, la fille, le père et Ulysse, 6 mois, dans cette très jolie presqu'île, reliée à la Seine-sur-Mer par les Sablettes. Donc à la fois une histoire de transmission. Et puis, Marine Calmet est juriste en droit de l'environnement. Alors elle a décentré son regard, parce que militante engagée, souvent en colère, le nez dans le guidon, c'est bien, mais parfois ça épuise. Et Lévi-Strauss nous disait évidemment que d'aller voir ailleurs permet de nourrir notre regard et de voir d'autres choses qui sont possibles. Elle le fit en se mobilisant 3 ans en Guyane contre le projet de la Montagne d'Or et les forages offshore de Total. Donc elle raconte tout cela dans « Devenir gardien de la nature pour la défense du vivant et des générations futures ». C'est chez Tana Édition. Donc nous sommes à Saint-Mandrier, vous avez un très joli port, et puis l'école de la marine qui est pas loin, et puis pas de sous-marin en vue. Allez, on y va.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui naissent au moment de l'enfance, où justement on nous transmet, là en l'occurrence mon père qui m'a transmis la connaissance justement des espèces animales et végétales, mais surtout le fait qu'il faille les protéger, d'avoir un certain respect justement vis-à-vis de cet environnement et qu'on ne peut pas construire n'importe comment, qu'on ne peut pas détruire, qu'il y a des comportements humains qu'on doit éviter pour justement éviter les feux de forêt ou ce genre de situation.
Et face à nous, donc on a le Cap Sissier.
Tout à fait. Et la route du littoral, donc là on va prendre par la route du littoral pour rentrer aussi, le chemin des douaniers. Ouais. Donc c'est là où on venait protéger justement le littoral des invasions extérieures. Et puis c'est aussi nous le chemin qu'on empruntait pour, avec les bouteilles sur le dos, aller nous mettre dans la mer et partir découvrir l'océan.
Il y a vraiment un combat que vous menez, vous, en tant que juriste, c'est l'écocide. Bon, alors, il n'y est pas passé, hein, on a bien vu que ça bloquait. Rappelez-nous ce que c'est.
L'écocide, c'est toutes les atteintes à l'environnement qui causent en fait un dommage tellement grave qu'elles mettent en danger l'habitabilité de notre planète ou de nos territoires. Et donc, ce sont des crimes qui aujourd'hui doivent être punis parce que c'est des comportements qui doivent être globalement considérés comme répréhensibles d'un point de vue de la société. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne passent plus, qui ne sont plus tolérables. Et aujourd'hui, malheureusement, on a encore une tolérance vis-à-vis des gens qui polluent, qui détruisent la nature. Et cette tolérance-là, c'est celle que nous proposons justement de pouvoir poursuivre avec l'écocide.
Parce qu'il y a quand même un vide juridique extrêmement important en matière d'environnement sur ce sujet-là.
Par exemple, la Méditerranée, c'est un exemple classique en matière de pollution, entre la pollution justement des plastiques dans l'océan, la pollution au Bourouge à Marseille, quelques kilomètres, une pollution massive par un industriel qui a pris l'océan pour
Alteo.
Sa poubelle pendant des années, et d'autres pollutions qui l'affectent. Aujourd'hui, il faut des sanctions parce qu'il faut dissuader ces comportements à l'avenir. Or, qui dit pas de sanctions dit évidemment le Far West juridique, on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire on fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est plus tolérable.
10 tonnes de boue rouge déversées devant le ministère de l'écologie. Opération coup de poing ce matin pour ces militants écologistes.
Donc on a décidé qu'à partir de maintenant, c'est eux qui allaient apprendre à vivre avec les boues rouges, plus nous. On va faire des livraisons régulières comme ça, tant qu'ils mettront pas fin à ces pollutions.
Ces boues, ce sont des déchets toxiques de bauxite générés par la fabrication d'aluminium dans cette usine à Gardanne, près de Marseille. Pendant près de 50 ans, elle a rejeté des dizaines de millions de tonnes de boue dans la Méditerranée, en plein cœur du parc national des Calanques.
Ah, alors là, on arrive sur la petite plage, comment elle s'appelle celle-là ?
Donc ça, c'est la plage de Cavalas. Nous, on l'appelle aussi la plage de Grave. C'est le nom de la famille qui habitait ici avant. Et donc, on venait tous les après-midi ici avec tous les enfants du village. On passait tous nos après-midi à flémarder, à prendre le soleil au bord de l'eau.
Et des Graves, ça va bien parce que c'est aussi les cailloux, hein, donc... C'est
exact.
Ça, c'est pas une plage de sable, donc...
Non, c'est une vraie plage de galets, comme on a ici. Et il y a énormément de biodiversité, en fait, parce que là, il y a un vieux ponton militaire, donc qui était utilisé pour décharger les marchandises. Et en fait, tout le long de ces rails, qu'on voit pas parce qu'ils sont sous l'eau, il y a énormément de poissons qui gravitent autour, énormément des murènes, toutes sortes
c'est
de
des refuges, hein.
Énormément de petits poulpes qui viennent et qui habitent là, et puis aussi des oursins, tout un tas de choses dont on faisait parfois le festin quand on pouvait venir pêcher.
Qu'est-ce que c'est pour vous, être gardien ou gardien de la nature ?
Être gardien, pour moi, c'est justement défendre ces lois du vivant, faire en sorte justement de préserver notre patrimoine à tous, notre patrimoine commun, d'être à la fois capable de représenter les intérêts des hommes, mais aussi les intérêts du végétal, du règne animal, et puis d'avoir ce souci de transmettre ce patrimoine, cet héritage, aux générations d'après, de façon à justement avoir cette responsabilité vis-à-vis du vivant. Et donc, parfois, c'est se mobiliser contre des lois injustes et défendre plus globalement la nature, l'aimer, la comprendre et transmettre ce savoir.
Ces droits à la nature, qu'est-ce que l'on peut un jour espérer ? Parce qu'on n'y est pas encore. Hein.
On n'y est pas encore, mais franchement, je veux espérer parce qu'on n'est pas très loin non plus. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a déjà des conventions qui fixent du droit de l'environnement. Par exemple, la mer, l'océan, la mer Méditerranée, elle est protégée par la Convention de Barcelone. Donc, en fait, on restreint en fait, les pollutions causées par les humains. Et on les encadre juridiquement. Mais c'est complètement anthropocentré. C'est-à-dire, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que les humains n'ont pas le droit de faire ? En fait, je suis déjà dans l'étape d'après. C'est-à-dire, puisqu'on considère qu'il y a des choses que les humains n'ont pas le droit de faire, ça veut dire que la nature, elle aussi, elle peut posséder des droits. Et donc, si on considère que les humains n'ont pas le droit de polluer, qu'est-ce qui nous empêche de dire que la nature a le droit de ne pas être polluée? C'est purement intellectuel. Je veux dire, le pas d'un statut à l'autre, il est aussi fin que du papier à cigarette. On y est déjà. C'est juste un changement de mentalité qui s'impose à nous, en fait.
C'est pas mal, Dominique. Je pense que vous pouvez quand même être sacrément fier de votre fille. Hein.
Ah, tout à fait. Je suis très content qu'elle ait ce respect pour la nature et en même temps ce respect pour les hommes. Donc d'arriver à concilier les deux et de se battre justement pour que les deux vivent en harmonie.
Alors je ne sais pas si un jour on arrivera donc à se retirer dans le cortex le concurrence, compétitivité, tout le discours guerrier lorsque l'on parle d'économie. Là c'est profond psychiquement quand même.
Oui, et en même temps c'est pour ça que du coup, dans mon livre, je voulais parler d'autres peuples qui ont permis, eux, de conserver, grâce à leur structure sociale, un équilibre avec la nature. En Guyane française, justement, ce que j'ai appris au contact des peuples autochtones, j'ai voulu en parler parce que, d'une part, ce sont des Français, ils vivent sur un territoire français et ils vivent complètement différemment de nous. Et
puis, 95% de forêt. Hein.
Oui, en Guyane française, et puis 6 nations autochtones avec lesquelles j'ai travaillé, alors surtout avec les Wayana et les Kalinya, qui sont deux peuples qui vivent plutôt dans l'ouest de la Guyane, et qui ont réussi à garder, à conserver ces structures sociales dans lesquelles la propriété privée sur la terre est exclue, quelque chose qui nous est complètement étranger et qui pourtant permet justement de gérer en commun et pour le bien de tous la protection de la planète, ce qui me semble essentiel. Et puis la recherche du coup d'un bien collectif, c'est-à-dire le bien des humains, le bien des non-humains et la protection pour les générations futures de ces ressources naturelles.
Au milieu de la forêt amazonienne, à une heure de vol de Cayenne, des baraquements comme surgis de nulle part. C'est le camp de base de ce qui sera peut-être la plus grande mine d'or jamais exploitée sur le sol français. 8 km carrés entre deux réserves naturelles exceptionnelles. Début de l'exploitation prévue en 2022.
J'ai demandé une évaluation très claire de ce projet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ce que je sais du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique et en matière de biodiversité.
Et en ce qui concerne cette fameuse mine d'or, j'allais dire, où en est-on? Parce que, à la fois, notre président, donc en 2015, était parfaitement d'accord avec l'homme fort de la Guyane, qui est Rodolphe Alexandre, pour faire la mine d'or. Après, il se congratule parce que, donc, on arrête donc cette mine d'or. Donc, on va dire tant mieux, ça c'était en 2019. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se faire. Moi, j'ai vu des choses passer, que vous avez quand même des gens qui vous parlent de mines durables, d'extraction responsable, transparente, respectueuse de l'environnement.
Oui, alors ça, c'est tout le beau panel du greenwashing. Alors, la mine durable, par définition, ça n'existe pas, hein, puisque toute mine qui extrait des matières non renouvelables ne peut pas être durable. C'est impossible, scientifiquement parlant. Et donc, quand on vous vend la mine durable, c'est qu'on vous raconte des bobards. Très concrètement, nous, en Guyane, la mine Montagne d'Or, par exemple, elle devait avoir une durée de vie d'une douzaine d'années. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout durable. C'est sur du très court terme, des emplois qui ne sont pas du tout pérennes et qui, pour le coup, détruisent ces ressources naturelles pour les générations futures.
Alors, ce n'est pas exactement la même mer, hein, si on part en Nouvelle-Zélande. Mais c'est intéressant quand même de dire quelques mots de nos amis maoris, parce que eux sont vraiment des gens qui sont reliés à la nature et qui ont fait avancer le droit.
Oui, alors les peuples maoris, ils ont déjà reconnu un statut donc pour les gardiens de la nature. C'est vraiment un modèle pour nous, c'est-à-dire qu'ils se sont battus pendant plus de 100 ans pour obtenir justement un droit de tutelle légal sur un fleuve qui s'appelle le Whanganui, mais aussi sur un parc et sur d'autres éléments de la nature. Et donc aujourd'hui, ce sont eux qui ont la responsabilité dans l'administration de défendre les intérêts de ce fleuve, de ce parc. Et donc on espère en fait pouvoir passer à un modèle qui comme ça reconnaît un nouveau statut aux citoyens, qui l'investit d'un vrai pouvoir de représentation et qui donc aussi garantit une certaine forme de représentativité de la nature dans nos instances de gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, qui parle pour la nature? Qui représente la mer? Qui représente les montagnes dans l'administration? Et c'est ça qui fait que trop souvent, en fait, malheureusement, les intérêts de la nature sont délaissés dès qu'on a des intérêts économiques, dès qu'on parle de création d'emplois. Aujourd'hui, il faut quelqu'un qui défende, pour le coup, la nature et qui puisse avoir carrément quasiment un droit de veto, en fait, sur certaines choses. Quand on dépasse justement les limites planétaires, c'est là que ce pouvoir, il doit être représenté.
Et quand on est Maori, et qu'on s'intéresse aux rivières ou aux fleuves, bah, ils vous disent « je suis la rivière et la rivière c'est moi ».
Oui, en fait, tout simplement parce que la rivière, elle a à la fois le lien intellectuel, c'est-à-dire que toutes leurs histoires, leurs contes, viennent justement de tous ces passages de leur culture qui se sont déroulés le long de cette rivière. Et puis, c'est aussi la rivière qui leur a fourni à manger, qui leur a permis de se déplacer. Mais c'est aussi une forme de relation de filiation, c'est-à-dire qu'ils considèrent la nature comme faisant directement partie de leur famille. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que moi aussi, je considère que j'ai cette relation de quasi-filiation à la nature. Cette plage, par exemple, où on est aujourd'hui, elle m'a vu grandir, elle a permis que je découvre la nature, qu'on s'amuse avec mes amis à l'époque. Et je pense que chacun d'entre nous a, dans son enfance, justement, on se rappelle nos souvenirs avec nos parents, les pique-niques au bord de la rivière ou les balades en forêt, tous ces moments, en fait, qui nous rattachent à la nature. On devrait s'en souvenir plus, se souvenir de... que justement l'histoire de la nature c'est aussi notre histoire et c'est ce qu'ont réussi à faire les Maoris, ça c'est leur identité. Nous on devrait aussi chercher notre identité, notre lien à la nature.
Je vous l'ai pas dit, mais à 30 ans, donc Marine Calmet est présidente de Wild Legal, qui est une association qui s'est donnée pour mission d'être une école et un incubateur pour les prochains procès en défense des droits de la nature. C'est pas de l'utopie, hein, c'est juste une question de survie pour les humains s'ils comprennent pas ça. Elle le raconte très bien dans Devenir gardien de la nature, et on poursuit le voyage dans quelques instants.
CO2, mon amour, avec Denis Chessou. Sur France Inter.
Sur la route qui descend vers la ville, je vois un gosse qui me fait des signes. C'est mon môme qui m'appelle encore une dernière fois, papa. Et je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent. J'ai fait mon devoir de père, je crois. Il aime les champs et les vignes. Il sait tendre l'oreille au vent qui chante. Mais déjà, j'adresse une prière aux lignes téléphoniques qui descendent. Faites parvenir ces messages jusqu'à moi, vous que le destin désigne, comme étant le lien unique entre lui et moi. Faites courir sa voix dans vos lignes téléphoniques qui descendent sur la route. Qui descend vers la ville, je vois un gosse qui me fait des signes. C'est mon môme qui m'appelle encore une dernière fois, papa. Je regarde courir les lignes téléphoniques qui descendent.
Qu'est-ce que c'est joli ça, Michel Jonas, les lignes téléphoniques. Bah évidemment c'est pas gratuit, c'est une histoire là aussi donc de filiation, ce qui est le cas entre Dominique Calmet et donc sa fille Marine Calmet. Petit coup de chapeau quand même aussi au Conservatoire du Littoral parce qu'il est quand même bien là aussi pour limiter la casse en achetant comme il peut donc pas mal de parcelles. Faut pas qu'elles soient trop petites parce que sinon ça morcelle leur territoire. Mais donc c'est un outil quand même de l'État qui fonctionne bien. Je veux aussi dire aussi que l'armée, bah elle est là à Saint-Mandrier, hein, véritablement. C'est aussi tout à fait culturel. Elle fait partie des deux plus gros propriétaires fonciers en France avec la SNCF. Donc tant qu'elle ne vend pas, elle protège de fait des espaces Natura 2000 et puis d'autres. Et là, donc, on rejoint la fille et le père.
On a des représentants locaux qui misent à fond sur la construction de logements, parce qu'évidemment, ça rapporte des sous à la commune, mais qui, du coup, grignotent progressivement toute la richesse naturelle de ce territoire. Et donc, en fait, on a des logements qui sont quasiment vides, parce que tout l'été, ils sont pleins, mais l'hiver et les autres mois de l'année, en fait, ils sont juste inhabités. Et donc, en fait, on a un territoire qui est sur-artificialisé et sous-utilisé. Ouais. Et donc, tous ces espaces qui sont pris, en fait, à la nature. Et donc, aujourd'hui, il y a des associations qui se battent. Et donc, l'association aussi de protection de l'environnement de la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer.
Et là, Dominique, nous sommes à côté du terrain militaire. C'est évidemment que c'est un lieu extrêmement important, donc ici pour les bases navales. Et il s'agit de faire des logements sociaux, là, ici.
Alors, c'est ce qu'on nous dit. On veut bâtir des logements sociaux, enfin, dits sociaux, sur un ancien parking. Ce qui nous étonne, c'est que, justement, il y a la Marine nationale à des bâtiments dans Toulon et beaucoup de bâtiments qui pourraient être rénovés, même sur Saint-Mandrier, sur la presqu'île. Et malheureusement, au lieu de rénover, on préfère reconstruire, un peu en contradiction avec ce que nous recommande le gouvernement d'ailleurs.
Ah, alors là, hop, une grosse racine, on y va, on descend. Des bambous à droite.
Canne de Provence.
Canne de Provence, exact. C'est pas pareil, c'est canne de Provence.
Ouais.
Et la nuance pour le panda, c'est quoi?
Le panda mange des bambous, mais pas de la canne de Provence.
Et c'est, ça, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de panda ici.
Et voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est peut-être que ce parking est en haut du vallon de Cavalas, donc qui aboutit sur une belle plage, et qui est surtout un endroit où viennent s'arrêter les oiseaux migrateurs, parce que c'est une zone semi-humide. Et donc, évidemment, ils trouvent de l'eau, la canne de Provence pour se planquer. Hein. D'ailleurs, la canne de Provence ne pousse que dans les endroits où il y a déjà un peu d'eau douce. Elle n'aime pas les terrains secs.
Comment on fait ici, par exemple, à Saint-Mandrier, mais enfin, c'est le cas aussi ailleurs, pour continuer, je veux dire, à urbaniser, parce que c'est le moteur, c'est le Graal.
Donc, ben, c'est très simple. Vous prenez des falaises qui ne sont pas classées. Vous les classez en zone naturelle. Donc ça augmente vos potentiels théoriquement de surface naturelle, mais en même temps, vous déclassez certaines zones naturelles pour les rendre constructibles. Et donc, au total, ben, vous avez un peu plus de construction et moins de naturel.
Et on ne pourrait pas faire payer les oiseaux une location pour, dans les falaises, peut-être?
Ah, ça, c'est le rêve, certainement, de certains promoteurs.
Non, je lance l'idée, moi. Hein.
Là, par contre, regarde, je viens de m'apercevoir. Là, c'est le panneau. Donc, cette plage, avant, n'était pas surveillée. Donc, on a demandé à ce qu'elle soit surveillée parce que c'est une plage traditionnelle pour les Mandréens. Donc, c'est là que Marine, mon fils et puis mon petit-fils ont mis les pieds dans l'eau la première fois. Donc, on a demandé à ce qu'elle soit surveillée au niveau bactériologique, comme toutes les autres plages. Là, on nous a dit que c'était pas possible, etc. Donc, on a contacté l'ARS qui, finalement, a poussé la municipalité à faire un contrôle.
Donc, et on voit là le dernier panneau. L'agence régionale de santé, oui. Et qu'est-ce qu'il raconte?
Le dernier panneau, ben voilà, on s'aperçoit qu'il y a quand même une contamination puisque les entérocoques montent à plus de 110 et l'eau, finalement, est classée en eau moyenne.
Donc,
ça veut dire qu'il y a une
source
de pollution qui mérite maintenant d'être trouvée et traitée.
Ouais, c'est-à-dire que dès qu'on plonge un thermomètre, maintenant on est à peu près sûr de son coup, et c'est pour ça qu'on essaie de ne pas le plonger, quoi.
Voilà, en gros c'est ça.
Ah, oui.
Pas de données, pas de problème.
Eh ben oui, eh ben oui, c'est formidable. Est-ce qu'on n'en est pas donc à ce point qui a toujours été comme ça dans les civilisations et aux différentes époques, d'être obligé de désobéir pour pouvoir faire respecter, on va dire, ces droits du vivant?
Aujourd'hui, malheureusement, avec les combats qu'on a menés en Guyane française, je pense que oui, très clairement, on est obligé de désobéir. On a des lois qui sont fondamentalement injustes, qui bénéficient uniquement à une petite catégorie d'industriels qui tirent profit de l'exploitation de la nature et qui nous mettent tous en danger. Et moi, j'accepte pas aujourd'hui que des personnes, sous couvert justement de faire du profit, mettent en danger les conditions d'existence de mon enfant. Et de la même façon, en tant que membre de cette société, je ne peux pas accepter qu'on mette en danger les communs, la protection de nos intérêts à tous, pour faire du profit et pour l'intérêt de petits particuliers. Ce qu'on a vu en Guyane, c'est un droit qui est taillé sur mesure pour profiter aux industriels de la mine, pour faire en sorte de pouvoir développer toujours plus l'extraction des ressources primaires du sol. Ça, aujourd'hui, ça doit être fini. On a le droit de désobéir, pour moi, dans ce genre de situation.
La compagnie française Total vient d'obtenir l'autorisation de procéder à un forage d'exploration au large de la Guyane, non loin de la mangrove, à quelques kilomètres d'un récif corallien. La préfecture guyanaise vient de donner son feu vert. Pourtant, depuis le 30 décembre dernier, la loi hydrocarbures interdit les forages. Sur Twitter, Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'écologie, s'en émeut.
Encore un grave recul. Cette autorisation, je l'ai refusée car le GIEC dit qu'il faut arrêter de prospecter les énergies fossiles. J'avais dit non au patron de Total car c'est mieux d'investir dans les énergies renouvelables. Encore un lobby qui gagne contre l'intérêt général.
Et pour Total, que vous avez suivi aussi, donc là, on est avec de l'extraction de pétrole. On est évidemment plus loin, on est au large. Qu'est-ce que l'on peut dire ?
Mais Total s'est affranchi complètement des règles. Et ça, c'est ce qui fait très peur. C'est-à-dire que Total a réussi à passer outre le droit fondamental à la participation du public, à passer outre la saisine de diverses instances censées garantir la biodiversité, comme le Comité national de protection de la nature. Et in fine, alors même qu'on est allé en justice, le juge nous a déboutés. C'est-à-dire c'était un tapis rouge du début à la fin pour que Total puisse mener à bout son projet. Donc ça, c'est vraiment un des exemples qui m'a le plus marqué, parce que là, le droit, très clairement, s'est complètement effacé face à justement des intérêts industriels et les intérêts des pêcheurs, des générations futures, les intérêts des personnes de Guyane. Ben, n'existe plus, tout simplement, dans ce genre de situation. C'est extrêmement grave et ça m'inquiète pour l'avenir de notre démocratie, de notre République, et puis pour les droits des générations futures, c'est un très mauvais signal.
Et vous vous êtes sacrément aussi interrogé sur vos échecs. Parce que, évidemment, vous avez pris des coups dans la figure, hein. C'était pas simple d'avoir tous ces refus. Vous avez dit, ouais, mais attendez, on va capitaliser quoi là-dessus.
Ça a été dur de l'écrire, mais c'était bien de revenir sur des choses qu'on a fait et qui étaient un échec monstrueux au final. Et justement, dans l'affaire Total, j'en parle, c'était qu'on était fondamentalement contre ce projet de forage pétrolier. Et qui pourrait nous donner tort ? Je veux dire, on a l'accord de Paris, on a les engagements sur la biodiversité. C'était normal d'être contre. Mais au final, on n'a pas proposé une alternative. Et on s'est pris un mur complet parce que les Guyanais sont dépendants du pétrole. On n'a pas construit d'infrastructures qui leur permettent d'être autonomes. On n'a pas mis en place justement des réseaux qui leur permettent d'être indépendants justement du pétrole. Et donc, quand nous, on est arrivés en disant « bah non, mais il faut sortir absolument des forages pétroliers
ouais, ». Mais comment elle est venue, la petite dame, là ? Elle est venue comment ? Elle est venue en avion, avec du kérosène, etc.
Et oui, elle n'est pas venue en pirogue, justement, jusqu'en Guyane, la petite dame. Et donc, ouais. Du coup, c'était tout à fait légitime, ces critiques. Et heureusement, on va dire que Total n'a pas trouvé de pétrole. Ouais, elle est repartie, mais on a quand même allumé une petite lumière. C'est-à-dire qu'on a dit « bah voilà, il y a le sujet du climat en Guyane qui était… plus ou moins peu discuté encore par le public à l'époque. Et c'était déjà ça. Et juste, elle a l'air parfaitement à l'aise. Hein.
Avec la bouteille de plongée, c'était sportif, mais à l'époque, j'étais jeune et vigoureux.
Il pèse moins que la bouteille de plongée, n'exagère pas.
Alors, quand on parle d'Ulysse, faut dire c'est votre bébé. Hein. C'est ça qui est.
C'est ça.
C'est pas le nom d'une bouteille de plongée, c'est votre bébé. Qui est là, et que le grand-père a sur le dos.
Le petit gardien de la nature.
Ouais. Mais alors, vous faites partie, vous, de cette génération, en fait, vous n'êtes pas dit « bah non, je ne ferai pas d'enfant parce que ça va être une empreinte écologique, etc. » Donc non, vous êtes dit « c'est un peu l'inverse ».
Oui, je me suis vraiment dit, au contraire, que ça faisait partie de la vie. Pour moi, c'était essentiel d'apprendre à s'occuper d'un autre être vivant. Ça fait partie d'une des étapes de la vie importante pour comprendre, en fait, ce schéma de vie, ce cycle. Et quand on devient parent, pour moi, ça a débloqué tout un tas de choses. J'ai compris aussi ce qu'on avait à transmettre. Aujourd'hui, j'ai envie de tout lui apprendre, à la fois l'amour de la nature, mais aussi le respect des autres. Il y a toute cette transmission qui se développe quand on devient parent. Évidemment, devenir parent, ça a un impact. Les adultes ont des impacts. Mais peut-être que lui aussi, plus tard, il sera, comme moi, engagé, militant, qu'il ira défendre des projets ou au contraire, bloquer des projets néfastes pour l'environnement. Et donc, je suis sûre qu'il aura un impact positif sur cette planète, justement.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ici ?
J'espère que, comme mon père, je verrai les enfants d'Ulysse pouvoir profiter de cette plage, eux aussi. Et puis continuer à la défendre, parce que je pense qu'on ne naît pas gardien, on le devient. On grandit en découvrant la nature, en apprenant à l'aimer. Dans ce combat, je pense que la nouvelle génération va faire sa part. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui marchent pour le climat.
Ils sont formidables.
Ouais, qui vont devenir des gardiens à part entière. Et puis, le pas en fait, vers la reconnaissance des droits de la nature, il est presque fait. On s'applique à le faire. Je pense que ça sera pour notre génération. Et puis, la génération d'après, elle sera vraiment, pour le coup, gardien. C'est-à-dire, j'espère qu'elle protégera nos acquis et qu'elle fera fructifier tous nos efforts par la suite.
Un bel engagement père et fille avec une belle réflexion, mais aussi des actes. Devenir gardien de la nature est signé Marine Calmet chez Tana Édition. Et merci donc aussi à son père Dominique.